Culture. Nous sommes en direct tous les samedis et tous les dimanches du mois de juillet de 12h40 à 12h50 pour décrypter les grands thèmes de l'actualité internationale et nationale. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de l'armée française. Un an après la spectaculaire démission du général De Villiers, l'ancien chef d'état-major, à l'issue d'un conflit avec Emmanuel Macron. Puis nous irons du côté de la marine. La France a-t-elle besoin d'un second porte-avions pour conserver son influence face aux puissances maritimes émergentes ? Lorsqu'il quitte son bureau de Ballard, juste après avoir démissionné le 19 juillet 2017, à l'issue d'un différend financier qui l'opposait au nouveau président de la République Emmanuel Macron, des applaudissements nourris accompagnent ses derniers pas de militaire. Dans la haie d'honneur, on sent l'émotion et parfois même la colère. Depuis, le général De Villiers a écrit un livre. « Servir » est devenu un best-seller. Il s'est vendu à 130 000 exemplaires. Certains ont fait la queue pendant 2 heures sur les trottoirs de Versailles dans le froid hivernal pour obtenir une dédicace et échanger quelques phrases avec celui qui, le temps d'un été troublé, leur est apparu comme un héros, une autorité morale, et qui symbolisait, pour la première fois depuis longtemps, la popularité nouvelle de l'armée en France. À l'époque, certains en étaient sûrs. Emmanuel Macron venait de commettre la première erreur de son quinquennat. Le nouveau président avait d'ailleurs vu sa cote de popularité baisser pendant l'été. Un an plus tard, les armées françaises, dirigées par le général Lecointre et l'Élysée, ont fait la paix. Emmanuel Macron a restauré l'autorité de l'État et de la fonction présidentielle. Il a augmenté le budget de la défense et promis de consolider une armée épuisée par les réformes et les coups de rabot financiers des quinquennats précédents. Aura-t-il les moyens économiques de tenir ses promesses ? Les ressources supplémentaires allouées aux armées sont-elles suffisantes pour faire face à la multiplication des menaces qui guettent la France et l'Europe ? Ce conflit inédit dans la Ve République entre un président et son chef d'état-major, qui ressemble finalement à un grand malentendu, a-t-il laissé des traces ou bien les larmes ont-elles séché, chassées par la résilience dont savent faire preuve les armées françaises ? Avec nous pour en débattre, général Jean-Louis Georgelin, bonjour. Vous êtes général d'armée, la plus haute position dans la hiérarchie militaire, celle qui donne 5 étoiles. Vous avez été chef d'état-major de 2006 à 2010, puis grand chancelier de la Légion d'honneur. Vous avez aussi occupé le poste très convoité de chef d'état-major particulier du président de la République entre 2002 et 2006. Nathalie Guibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de défense au journal Le Monde depuis 2009. « Je n'étais pas la bienvenue », c'est le titre du récit que vous avez publié en 2016 aux éditions Paulsen, celui des 45 jours que vous avez passé seule femme à bord d'un sous-marin d'attaque, le Perle. Élie Tenenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous coordonnez aussi son laboratoire de recherche sur la défense. Vous êtes agrégé et docteur en histoire. Alors, première question, je vais la poser au général Georgelin. Général, que reste-t-il, selon vous, du conflit qui a opposé Pierre De Villiers et Emmanuel Macron à propos du budget de la défense et plus particulièrement, je rappelle pour les auditeurs, d'une coupe de 850 millions d'euros que le pouvoir avait voulu imposer au chef d'état-major il y a un an. Les armées et l'Élysée ont-ils fait la paix ?
Bien, chère madame, d'abord j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la magnifique fresque que vous venez de brosser. Alors vous l'avez dit, j'ai été chef d'état-major des armées de 2006 à 2010, ce qui veut dire que depuis 2006, c'est-à-dire 8 ans, je ne suis plus dans les armées. Donc je n'ai qu'un regard extérieur et je ne peux regarder ces questions... Qu'avec le
général,
poids de l'expérience.
On sait bien, les militaires, c'est comme les trotskistes, hein, militaire un jour, militaire toujours.
Oui, chère madame, mais la vérité est toujours très très difficile à démêler. Des fresques comme celles que vous venez de faire, des déclarations des uns et des déclarations des autres. Alors, avant de parler de ce que l'état d'armée aujourd'hui, d'ailleurs, que je ne connais encore une fois que de manière extérieure, je voudrais revenir sur le facteur déclenchant de la démission du général De Villiers. Le facteur déclenchant, c'est le financement des OPEX, des opérations extérieures. Alors, je suis pour le coup particulièrement bien placé pour en parler, pour la raison suivante. Avant d'être chef d'état-major particulier, j'étais successivement chef de la division plan-programme à l'état-major des armées et sous-chef plan. Autrement dit, j'étais à l'état-major des armées déjà, non pas l'architecte, car il faut rester modeste, mais celui qui mettait et qui fabriquait les lois de programmation. Voilà. Lorsque j'arrive à l'Élysée en 2003, je dis au président de la République, « Monsieur le Président, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le budget des armées. Je sais que chaque année, en fin d'année, on nous ampute du montant des opérations extérieures. » Je rappelle au passage que les opérations extérieures n'ont pas démarré avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ni avec celui de François Hollande, ni avec celui d'Emmanuel Macron. Il y a eu des opérations extérieures des armées françaises continuellement depuis la fin de la guerre d'Algérie. Ce qui a changé, c'est qu'elles deviennent plus dures, elles deviennent différentes. On tire des munitions qui coûtent extrêmement cher, ce qui augmente leur prix. Mais dans la décennie 90, celle où j'étais chef PPE, la moyenne des coûts des opérations extérieures était de 3,3 milliards en France, c'est-à-dire l'équivalent en gros de 400 millions d'euros. Et systématiquement, ces coûts étaient imputés au budget des armées et on annulait systématiquement des crédits d'investissement. Autrement dit, le budget de la défense se voyait imputé d'un montant considérable par rapport à ces investissements. Donc je dis au président de la République, nous devrions trouver un système qui fasse financer ces opérations extérieures par le budget général en fin d'exercice. C'est ce qui a été décidé dans un conseil de défense. Comme nous sommes en France, quand un conseil de défense s'est réuni, alors probablement plus aujourd'hui, puisqu'on nous explique qu'aujourd'hui tout est absolument parfait, l'autorité du président est tout à fait totale, à l'époque, Bercy, qui est en réalité notre adversaire institutionnel le plus constant, le plus puissant et le plus fort, s'échine à essayer de contourner ces décisions. Il n'y arrive pas toujours. J'avais coutume de dire, lorsque j'étais chef d'état-major des armées, que les armées remportent souvent des victoires stratégiques dans les conseils de défense, mais souvent des défaites tactiques dans la gestion quotidienne du budget. Et une commission est créée après ce conseil de défense, qui comprend des inspecteurs généraux des finances et des contrôleurs généraux des armées. Et cette commission met un certain temps à mettre en musique la décision du Conseil de défense et décide qu'un montant en gros de 400 millions d'euros serait affecté au budget de la défense pour le financement des OPEX, entre parenthèses, qui revenait à abattre d'entrée de jeu de 400 millions d'euros le budget des armées. Mais, comme ça correspondait à un moment où, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, à un moment où le président Chirac rattrapait le déclin de la loi de programmation militaire issue de la professionnalisation. Je rappelle d'ailleurs au passage que ce déclin qui s'est fait sous le gouvernement de M. Jospin s'est fait à un moment où le conseiller budgétaire et le secrétaire au budget du dit Premier ministre étaient l'actuel ministre des armées.
Oui, mais alors moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu aujourd'hui quand même.
Non, je continue parce que c'est très...
Oui, mais je voudrais que les autres invités puissent quand même...
Ils vont parler, madame, rassurez-vous, mais c'est pas la peine de parler cette question sans connaître la racine de cette affaire. D'accord. La racine de cette affaire, c'est que ce système-là va fonctionner systématiquement jusqu'à l'été 2017. À l'été 2017, un nouveau gouvernement arrive, un nouveau ministre des comptes publics arrive, un nouveau secrétaire général arrive, un nouveau président de la République arrive. Je ne sais pas s'ils avaient parfaitement à l'esprit ce schéma-là et l'extrême sensibilité de cette question pour les armées. Or, c'était une question extrêmement sensible, financé, si je comprends bien, les opérations extérieures à l'été 2007 devaient donc coûter 1250 ou quelque chose comme ça, millions d'euros. Il était légitime, comme ça avait été le cas continuellement depuis 2003 ou 2004, qu'elle soit financée par le budget général de l'État. Et ceci est extrêmement important parce que ça n'a pas été ni compris, ni admis, ni accepté par les armées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous ne savons pas exactement, en tout cas moi je ne le sais pas, la manière dont l'état-major des armées a suivi le processus décisionnel autour de cette affaire. Est-ce que ça s'était imposé à la minute? Je n'en sais rien. Est-ce que nous ne savons pas ce que se sont dit le président de la République et le chef d'état-major des armées du moment, au moment où il le reconduisait? Moi, en tout cas, je ne le sais pas. Nous ne savons pas ce que se sont dit le président de la République et le même chef d'état-major des armées au moment où il le quittait après sa démission. Toujours est-il, ce que nous savons, c'est cette séance qui, elle, va rester et qui reste. C'est cette séance du 13 juillet 2017, voilà, où le président de la République, d'une manière étonnante et surprenante, accable dans des termes très durs le chef d'état-major des armées devant l'ensemble des chefs militaires, devant les attachés militaires, etc., ce qui est considéré, ce que l'on appelle dans le jargon militaire, une faute de commandement. Voilà. Et pour revenir à votre question, et j'en termine, chère madame, ce qui va rester de cette affaire, et ce qui reste, à mon sens, dans les armées aujourd'hui, c'est véritablement cette agression verbale du président de la République sur le chef d'état-major des armées. Alors nous reviendrons peut-être ensuite sur la manière dont, habilement, le président de la République a essayé de réparer les dégâts commis par cette tonitruante déclaration.
Nous y reviendrons. Nathalie Guibert, vous avez écrit il y a quelques semaines un grand papier dans Le Monde qui s'intitulait, si ma mémoire est bonne, « La paix des braves ».
Oui.
Alors,
la paix des braves, ça veut dire qu'on
fait la paix.
Ça veut dire que c'est pas la paix totale, effectivement. Et je pense que contrairement à ce que disent à la fois certains au ministère de la Défense et certains gradés français, l'affaire n'est pas totalement passée, évidemment. C'est-à-dire que ça laisse des traces encore, et ça laisse des traces jusqu'aux soldats de base. Moi, je le vois quand j'en rencontre. C'est-à-dire qu'on a des militaires qui se sont dit, mais pourquoi ce chef, donc en l'occurrence le chef d'état-major des armées, pourquoi ce chef qui semblait bien nous défendre, qui demandait de l'argent pour les armées, est sanctionné? C'est-à-dire, on ne comprend pas. S'il avait été sanctionné parce qu'il avait raté une opération, qu'il avait eu 20 morts dans des circonstances inadmissibles sur un théâtre d'opération, on l'aurait compris, mais là, on ne comprend pas. Donc, il y a eu ce sentiment, et qui perdure, je pense. Ensuite, il faut bien se souvenir que ça ne va pas passer comme ça non plus, parce qu'il faut se souvenir que les raisons profondes qui font qu'on en est arrivé à cette crise, elles demeurent. C'est-à-dire que les armées se bagarrent depuis 20 ans pour avoir des moyens à la hauteur de ce qu'elles estiment être les ambitions qu'on leur a fixées. Et elles finissent par s'éreinter dans cette bataille. Et quand... au mois de juillet 2017, Macron et le ministère du Budget, tout d'un coup, sur la foi de l'audit des finances publiques, disent il faut refaire des économies et annoncent des coupes qui n'étaient pas forcément prévues deux mois plus tôt. C'est une très mauvaise surprise. Et puis surtout, on ne comprend plus. On ne comprend plus la logique. Donc voilà, je pense que ça va... évidemment, comme vous l'avez dit, les armées sont résilientes et ça va, elles sont au travail. Mais il y a quand même eu une crise qui va laisser des traces parce que les raisons profondes ne sont pas réglées.
Oui, mais alors moi je vais me faire l'avocat du diable. Depuis, Emmanuel Macron s'est quand même pas mal rattrapé. Il a prouvé dans d'autres domaines qu'il tenait ses promesses et qu'il respectait son programme électoral. Pourquoi on lui ferait un procès d'intention?
Oui, alors c'est vrai que il répète très fortement, et c'est la phrase qu'il avait dite dès le 13 juillet, mais les engagements que j'ai pris, je sais les tenir. Bon, mais sauf que ça, c'est rendez-vous dans 5 ans. c'est pas maintenant. Et ce qu'avait étudié l'état-major et le général Pierre de Villiers, c'était qu'il fallait des ressources plus importantes dès maintenant. Et elles ne sont pas là. Et ces ressources, c'est pas pour faire plaisir aux armées, c'est d'abord pour payer les décisions qu'avait prises le précédent président de la République, François Hollande, après les attentats de 2015 et 2016. Et donc, qui n'était pas financé et qu'il fallait financer en 2017, en 2018, en 2019. Donc, les raisons sont quand même objectivement sur la table. Et ce qui est vrai, c'est que la perspective qu'offre le président Macron d'une remontée des crédits militaires à l'horizon 2025 est là. Mais concrètement, les militaires, maintenant, ils attendent de juger sur les actes. C'est aussi simple que ça.
Élie Tenenbaum, quel est l'état de l'armée un an après le 13 juillet 2017.
Je pense qu'il faut distinguer effectivement deux choses qui sont d'une part le ressenti de l'institution militaire vis-à-vis des relations civilo-militaires telles qu'elles ont pu être un petit peu malmenées à la fois sous le quinquennat Hollande pour d'autres raisons et à l'époque du mandat de Jean-Yves Le Drian, mais aussi au moment de cette crise presque personnelle entre le président et le chef d'état-major des armées. Avec toute la dimension, on va dire, humaine que peuvent avoir ces relations. Et, comme l'expliquait le général Georges Lain, le nerf de la guerre, qui est effectivement cette question du financement ou du sous-financement, non seulement des opérations extérieures, mais derrière de l'ensemble de l'appareil militaire. Et là, il faut effectivement prendre un petit peu le regard d'ensemble sur des décennies de chute des crédits de la défense. Rien qu'en 2007, on était à un effort de défense qui était autour de 2,3% du PIB, et il était tombé en 2016 à 1,7%. Donc,
Sachant que l'OTAN impose normalement à ses pays membres un minimum de 2% consacré à la défense.
Et ça s'était traduit par des coupes dans les effectifs, une détérioration importante des conditions de vie des militaires, à la fois en OPEX, mais également dans le temps de préparation opérationnelle. Et donc, on avait eu, à la fin du quinquennat Hollande, après les attentats, une sorte de coup d'arrêt à cette longue série de déflation et de coupes budgétaires. Emmanuel Macron, dans sa campagne, s'était engagé à amorcer une remontée en puissance. Et le premier geste véritablement politique qu'il fait, c'est effectivement cette coupe de 850 millions, d'où la réaction qui avait été vive du général de Villiers et l'incompréhension. Alors, fait est dit, après cette crise, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même eu... Et là, je nuancerai un petit peu, on va dire, le scepticisme qu'on pourrait avoir, c'est qu'on a quand même eu plus que des mots, c'est-à-dire qu'il y a bon, d'abord une revue stratégique qui a été menée, qui a été présentée en octobre, qui était essentiellement déclaratoire, mais qui quand même envoyait un signal d'une prise de conscience du gouvernement et de l'administration Macron, de la réalité du monde dans lequel on vit et des ambitions qu'il fallait redonner peut-être aux questions de défense, suivi au mois de mars 2018 d'une nouvelle loi de programmation militaire qui anticipait d'ailleurs sur l'obligation qui était de faire, puisque elle se terminait en 2019, la loi de programmation militaire dans laquelle on se trouve actuellement. Donc a priori, ils devaient en faire une pour 2020. Finalement, ils ont décidé d'anticiper un petit peu ce qui était dans les recommandations du général de Villiers, même s'ils l'ont fait avec un an d'écart, une nouvelle loi de programmation militaire, qui est présentée comme une loi de programmation militaire de renouveau. On va dire que c'est pas une remontée en puissance au sens strict, mais c'est quand même une consolidation avec des ambitions financières dont on peut discuter les limites et effectivement la sincérité, mais avec une augmentation de 1,7 milliard par an, a priori, à partir de l'année prochaine. Là, sur la loi de finances 2018, on voit qu'il y a eu ce 1,7 milliard. En plus, on a là 1,4 milliard, on peut discuter.
Mais
ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà des gages qui ont été donnés. Oui. Alors ensuite, effectivement, on peut discuter.
La grosse remontée intervient quand quinquennat d'Emmanuel Macron se termine.
On est sur 1,7 milliard par an jusqu'en 2022 et ensuite une marge de 3 milliards par an, ce qui est évidemment l'effort le plus considérable.
Donc tout va bien s'il est réélu.
Et tout va bien surtout s'il respecte cette loi de programmation militaire, parce que on a historiquement sur les deux ou trois dernières décennies des lois de programmation militaire qui ont eu un taux d'exécution assez insatisfaisant.
Général Georgelin, en fait, 2% c'est le minimum qui est fixé par l'OTAN pour ses pays membres à consacrer à la défense. Mais est-ce que, en fait, dans le monde dans lequel on vit, qui n'est plus du tout celui qui était décrit par Fukuyama à la fin de la chute du monde, qui annonçait la fin de l'histoire, mais qui est marqué par d'abord le retour de la guerre depuis l'Afghanistan, et ensuite par une multiplication de menaces très polyformes. Est-ce qu'il ne faudrait pas un budget pour un pays comme la France, pour que le pays puisse s'opposer aux pays émergents comme la Chine, la Russie, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un budget de 3-4%?
Alors, d'abord, je voudrais faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit à gauche et à droite. À gauche, c'est-à-dire par rapport à ma position, bien sûr, dans ce studio. Cette crise qui a conduit à la démission du général de Villiers, car le général de Villiers n'a pas été remercié, il a démissionné. Cette crise, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général, qui marque l'histoire des armées françaises, en réalité depuis la chute du Second Empire, sous la Troisième République, jusqu'à aujourd'hui, et qui fait que les relations entre le pouvoir politique et l'autorité militaire, et non pas le pouvoir militaire, parce que le pouvoir militaire n'existe pas, il y a une autorité militaire, n'est jamais un fleuve tranquille, n'est jamais une question de confiance. Et il y a toujours une grande méfiance, plus ou moins exprimée, des autorités politiques vis-à-vis du pouvoir politique vis-à-vis des autorités militaires. Alors, il y a quelques événements qui le scandent, notamment prenez par exemple le putsch. Moi, je me souviens sous chef plan entendre un secrétaire.
Putsch d'Alger, oui.
Putsch d'Alger de 61. Je me souviens sous chef plan en 99 entendre un secrétaire d'État à la Défense dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. S'adressant au premier séminaire interarmé des grandes écoles militaires, en leur disant « Surtout, ne soyez pas des putschistes ». C'était sidérant. Alors que la plupart des élèves officiers qui étaient là étaient incapables de citer la date du putsch ou les gens qui étaient. Donc il y a toujours une espèce de méfiance. Dans les traces qui sont restées, je discutais l'autre jour avec ça, vous avez une autre affaire qui a relancé dans l'esprit des militaires ce sentiment qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils sont cantonnés à leur position technique, et que le reste, c'est l'affaire des gens très intelligents qui savent mieux que nous ce dont nous avons besoin. C'est cette histoire du lycée militaire de Saint-Cyr, après un article de Mediapart.
Libération, il me semble.
Mais c'est pas sur au départ, enfin bref, de Libération, et ça y est, c'est devenu les fascistes et les machins, pour trois connards qui avaient fait des bêtises. Cette question des lycées militaires, cette question de Saint-Cyr, vous n'avez pas un cabinet, un ministre, qui un jour ou l'autre ne s'y frotte pas. Et ça, c'est vraiment très très mal vécu. Et le discours, la manière dont le président a traité le chef d'état-major des armées s'inscrit un peu dans tout ça, même si, évidemment, c'était pas son intention. Et puis, cette autre chose qui fait que la haute fonction publique, en réalité, vous avez dit que j'ai été chef d'état-major particulier et chef d'état-major des armées, supporte assez mal qu'il puisse y avoir un personnage qui ne soit pas des leurs, qui est le chef d'état-major des armées, qui a une certaine audience auprès du président de la République, qui est influent dans les décisions qui sont prises, et ainsi de suite. Donc tout ça crée un climat. Et c'est un peu là-dedans aussi que s'inscrit cette affaire entre le général De Villiers et le président de la République. Alors, revenons sur mon voisin de droite, donc, et sa loi de programmation militaire. Le président de la République actuel, indiscutablement, a porté sur les fonts baptismaux une loi de programmation militaire ambitieuse, qu'il faut saluer, et qui n'est largement insuffisante, évidemment, en regard des besoins réels d'une armée moderne, bien évidemment, mais qui, compte les choses étant ce qu'elles sont et la France ce que nous savons, et plus va évidemment dans une bonne direction. Mais il le fait aussi parce que la situation actuelle lui le permet. Aujourd'hui, je regardais les sondages. Je crois que 82% des Français, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017, soutenaient l'idée qu'il fallait ni réduire, en tout cas, et même augmenter le budget de la défense.
Augmenter, c'est spectaculaire.
Alors que quand François Mitterrand arrive, et sous Nicolas Sarkozy, tout le monde expliquait qu'il faut réduire le budget de la défense. Nous sommes dans un monde où plus personne ignore que le monde est tragique. Nous sommes dans un monde où tout le monde se rend compte que l'Europe est désarmée. Nous sommes dans un monde où, finalement, nous commençons à redouter que les États-Unis se désolidarisent de l'Europe et se posera la question qui va assurer la défense collective de l'Europe, et ainsi de suite. Donc, le fait de voir accélérer ou rétablir des budgets plus conséquents pour l'Europe est une ardente obligation pour les chefs d'État européens. Alors ensuite, cette question des 2% n'est pas une question nouvelle. Je n'en ferai pas l'archéologie, même si j'en ai été témoin depuis le début. Je me souviens quand cette affaire-là a été articulée. Il y a d'abord un malentendu sur 2%. Et là, je rejoins votre question précise. À l'origine, quand on parle de 2%, la référence qu'on prend à l'heure actuelle, je parle sous le contrôle du savant qui est à ma droite, je crois que c'est 1,7. C'est-à-dire un budget global qui comprend des tas de choses, alors que le vrai budget, je ne parle pas de la loi de programmation. Je ne parle pas des chiffres qui sont mis maintenant sur la table avec la loi de programmation. Dans mon esprit, la référence, par exemple, quand le général de Villiers parler de passer à 2%, ça a été son combat pendant la campagne électorale avec les candidats en disant il faut 2%, vieille histoire. Pour moi, la référence de base, la base à partir de laquelle il fallait construire ces 2%, c'était pas 1,7, c'était 1,5, 1,4, 1,5. Le budget qui est consacré absolument aux forces. Voilà. Dernière observation, ce qui déplaît et ce qui a un impact fort avec les militaires, dans les deux programmations précédentes, celle de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande, on maquillait un peu les choses en disant « on ne va pas vous donner que des crédits budgétaires, on va vous donner des recettes exceptionnelles ». Bon, chacun savait que ces recettes exceptionnelles, c'était un maquillage et qu'on les aurait ou on ne les aurait pas. La loi Sarkozy, c'était, je crois, un peu moins de 1% de recettes exceptionnelles. La loi Hollande, je crois que c'était 4,4%. Dans la loi actuelle, ce qui fait mauvais effet, c'est que c'est après le premier quinquennat qu'on voit les sursauts financiers notables. Donc tout ça crée un certain scepticisme.
Nathalie Guibert, cette tendance, elle est suffisante dans un monde avec une recrudescence des menaces?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de l'effort de défense d'un pays, c'est relatif. C'est-à-dire qu'un effort de défense, il se mesure par rapport aux ambitions que se fixe ce pays. Donc la France a des ambitions. Elle les maintient. Il y a toujours le même langage de l'exécutif français sur le pays, membre du Conseil de sécurité, détenteur de la bombe nucléaire, etc., qui a des obligations internationales. Donc on se disait, si la France a des obligations, elle a, de façon cohérente, elle doit mettre en adéquation ses ressources sur son outil militaire, qu'elle projette partout, qu'elle envoie en Syrie, en Irak, en Libye, à la moindre occasion. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça a marché. C'est-à-dire que ce n'est ni la grande vision stratégique des politiques, ni la grande vision stratégique des militaires qui a fait qu'on a décidé 2%. C'est-à-dire que les alliés de l'OTAN décident de s'engager sur cet effort qui est un indicateur grossier, mais qui montre une volonté politique, à partir du moment où la Russie a annexé la Crimée. Et en France, que se passe-t-il ? Ce n'est pas parce qu'on a fait une analyse à froid dans tous les livres blancs qu'on peut imaginer des menaces qu'on décide de réaugmenter le budget. C'est parce qu'on a la guerre qui surgit au Bataclan avec 130 morts. Voilà, point final. Et donc c'est ces morts-là qui font qu'on reprend conscience de ce que ça veut dire. Et surtout, qu'en décidant de mettre des militaires dans la rue, on se rend compte qu'on n'y arrive plus. Parce que d'abord, il n'y en a plus assez. Et puis si on les met tous dans la rue, on ne pourra plus les envoyer ailleurs, etc., etc. Donc c'est tout ça est toujours à mesurer par rapport à la cohérence. Et c'est ça qui a fait, si je puis parler ainsi, disjoncter Pierre de Villiers. C'est l'incohérence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, on peut dire à chef d'état-major, c'est ridicule, ça ne démissionne pas pour 800 millions. C'est ridicule. Dans la première armée d'Europe, qui a 35 milliards de budget, oui, mais si, c'est parce que ça devient complètement incohérent et que du coup, ça explose. Voilà.
Élie Tenenbaum, là-dessus.
Oui, on sort absolument d'une période où il y a eu à la fois une réduction des moyens, des effectifs, des structures de force et une surutilisation de ces moyens. C'est-à-dire que ce soit en opération extérieure ou sur le territoire national, évidemment dans le cadre de la mission Sentinelle, vous aviez un appareil militaire français qui était au bord de la surchauffe, comme l'avait dit d'ailleurs le général de Villiers à plusieurs reprises devant les commissions parlementaires et les différents espaces publics, et donc qui posait un moment la question de l'explosion en plein vol du système si on poursuivait le modèle tel qu'il était, c'est-à-dire des ambitions maintenues dans un contexte géopolitique pire qu'il n'était et du coup se traduisant par des opérations et un emploi opérationnel plus élevé. Et des moyens qui se subissaient une érosion persistante. Donc à un moment, il fallait prendre une décision. Cette décision, elle a été prise de façon timorée et on pourrait dire insuffisante par les gouvernements successifs. Mais le signal a quand même été celui-là. Maintenant, je suis d'accord que aujourd'hui les questions se posent. On parlait par exemple, Nathalie Guibert parlait de la France puissance nucléaire. Se pose la question du maintien de la dissuasion et des deux composantes qui assurent la dissuasion. Officiellement, la question ne se pose pas puisque le gouvernement a décidé que, évidemment, on maintiendrait ça. Cela dit, la modernisation de la dissuasion va à elle seule coûter, en moyenne sur les 5 prochaines années, 1 milliard d'euros. Donc le 1,7 milliard qu'on va rajouter, il va déjà être consommé à grande partie rien que pour maintenir en l'état des capacités que l'on avait sur les années précédentes et qui ne se voyaient pas, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, effectivement, la remontée en puissance, il faut la nuancer en sachant que maintenir nos capacités et nos ambitions au niveau auquel on estime être minimal, rien que ça, ça demande en fait d'augmenter
d'où ma budgets. Question que je vous poserai donc à vous aussi. Est-ce que pour à la fois maintenir notre niveau en opération extérieure, mm-hmm. Assurer la défense de la France avec Sentinelle et sans doute plus dans les années à venir, la dissuasion nucléaire, etc. Est-ce qu'en fait ce modèle, c'est pas un modèle qui coûte 3 ou 4%?
Ben effectivement, après le chiffrage, on peut toujours le discuter. L'opportunité des opérations, on peut aussi les discuter. Moi, j'avais critiqué, fut un temps, le volume de l'opération Sentinelle. On voit bien qu'aujourd'hui, l'opération Sentinelle a été repensée de manière à ce qu'elle coûte
probablement
moins.
Pardonnez-moi, je vous interromps, ce sondage qui est paru la semaine dernière est très très intéressant. Il y a 15 ans, les Français citaient la défense comme vraiment institution dont il fallait réduire le budget. Et aujourd'hui, ils veulent l'augmenter. Et ils citent comme... je crois que 65% disent qu'il faut en fait réduire les allocations sociales. On est complètement dans un monde inversé.
Non, mais c'est pas surprenant dans la mesure où la sécurité est le premier des biens et des services publics qu'un État est censé apporter à ses citoyens. Et ça, on le sait depuis la naissance de l'État moderne. Et donc, la sécurité sociale, elle n'apparaît qu'à un moment... dans la mesure où la sécurité physique est garantie. Après, le sentiment d'insécurité, évidemment, on peut travailler dessus, mais les Français voient bien aussi le monde dans lequel nous vivons, les rapports de force géopolitiques. En 2017, l'Inde est passée devant la France en termes de dépenses de défense. Donc on voit bien aussi que les rapports de force géopolitiques et la hiérarchie des puissances est en train de se modifier. Et pour les pays occidentaux qui ont bénéficié globalement du statu quo tel qu'il était au cours des 20 dernières années à minima, la question se pose effectivement de savoir s'ils veulent avoir les moyens de conserver cette pérennité.
Merci Elie Tenenbaum. Ainsi s'achève ce premier débat consacré à l'armée française. On se retrouve tout de suite après une pause musicale.
Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Sicènes, les Lorrains. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Sommes des étourdis, nous sommes des lascars, des tirs.
Magazine du week-end, Isabelle Lasserre.
Vous venez d'écouter, bien sûr, le Boudin, le chant de la Légion étrangère. Il est maintenant l'heure d'ouvrir notre second débat de l'émission. 100 000 tonnes de diplomatie, disait de lui l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a fait de lui la pièce maîtresse des marines du monde. Le porte-avions n'est pas seulement un outil de suprématie nationale et de supériorité aérienne, il est aussi un instrument de puissance politique. Il permet à une nation d'imposer sa volonté et de tenir son rang dans le monde. On aurait pu croire que l'époque, qui fait de la rapidité une condition du succès et de la sobriété économique une vertu, deviendrait défavorable à ce type de bâtiment dont certains dénoncent la lenteur, la cherté et la vulnérabilité. Le porte-avions redevient au contraire un atout majeur des grandes marines. Les États-Unis, qui dominent le marché en l'écrasant, viennent de mettre en service leur 11e bâtiment. Mais les pays occidentaux, qui ont en partie puisé leurs forces stratégiques dans leur capacité à dominer les mers, ne sont plus les seuls à investir dans les porte-avions. À la faveur du basculement des rapports de puissance mondiaux, tout le monde s'y met, à commencer par la Chine, qui en voudrait au moins 4, et la Russie, qui voudrait s'en doter d'un deuxième aussi gros et aussi fort que ceux des Américains. Depuis le retrait du Foch en 2000, la France n'a plus qu'un seul porte-avions. Le Charles de Gaulle a participé à toutes les guerres récentes, de l'Afghanistan au Levant en passant par la Libye et le Golfe arabo-persique. Mais sans jumeaux, obligé de passer de longs moments en révision, il ne peut assurer de permanence à la mer. C'est un sujet qui n'a pas été tranché par la loi de programmation militaire récemment adoptée. Faut-il doter la marine française d'un second porte-avions ? Pour répondre à cette question avec nous sur ce plateau, général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées, vous êtes resté avec nous. Vous aussi, Nathalie Guibert, correspondante défense du journal Le Monde. Jean-Sylvestre Mongrenier, vous venez de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut Thomas More qui a consacré un colloque passionnant à la géopolitique des porte-avions en mars dernier. Vous êtes aussi officier de réserve de la Marine nationale. Alors, Jean-Sylvestre Mongrenier, la France a-t-elle besoin d'un second porte-avions ? Doit-elle acquérir un second porte-avions ?
Oui, bah vous avez déjà dit beaucoup de choses sur l'importance de ce que représente un porte-avions, aussi bien donc au plan politique, le plus général, que dans les prolongements diplomatiques, stratégiques, et puis tactiques également. C'est pas simplement la démonstration d'une puissance, c'est aussi la capacité à frapper loin à l'intérieur des terres. Alors, ce qui est important, c'est le principe de permanence à la mer, comme vous l'avez dit. Alors, si j'osais, mais je n'oserais pas, je dirais qu'il faudrait même trois porte-avions. Idéalement, pour pouvoir disposer de cette permanence à la mer, puisqu'il y a des questions de maintenance, donc un à quai, un en maintenance et puis un en permanence en mer, pour simplifier.
Bon, c'est la permanence à la mer, rappelons, c'est le fait que, en fait, soit un sous-marin, soit un bâtiment, soit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours sur 305, en capacité d'effectuer une mission qu'on lui donne.
Voilà, tout à fait. Et donc là, quand on parle de permanence à la mer, c'est au sens large du terme. C'est pas stricto sensu, c'est la capacité finalement à faire appareiller un porte-avions en 2 ou 3 jours, de manière donc à répondre à une crise, à être sur zone, pour manifester sa volonté politique, manifester son intention stratégique, à peser dans le déroulement de cette crise, et puis éventuellement intervenir de vive force dans cette crise. Alors, ce que l'on constate, c'est que les différents pays de ce qu'on appelle le P5, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies se dotent de porte-avions ou renouvellent leur flotte. Et donc, y a la question de la France. Alors, il semble que le principe même du porte-avions soit à peu près acquis, si l'on en croit la revue stratégique, si l'on en croit la loi de programmation militaire.
Les études viennent d'être lancées jeudi.
Voilà, les études viennent d'être lancées. Alors, le principe de permanence à la mer reste ouvert. Et, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui n'est pas encore tranché. Mais, donc, vous l'avez dit également, il y a les États-Unis, bien sûr. Il y a la Chine qui donc dispose d'ores et déjà ou presque de 2 porte-avions et puis qui voudrait s'en doter de 2 supplémentaires pour pouvoir projeter sa puissance au-delà de ce que l'on appelle les Méditerranées asiatiques, la mer de Chine du Sud, la mer de Chine de l'Est. Donc il s'agit véritablement de peser en Asie-Pacifique, dans l'océan Indien, ce qu'on appelle parfois le bassin ou plutôt la région Indo-Pacifique, voire au-delà. On voit de plus en plus des escadres chinoises croisées en Méditerranée. À peu près 3 fois par an aujourd'hui. C'est quelque chose qui est relativement récent. Il y a l'Inde qui voudrait disposer de 2 voire 3 porte-avions, donc 2 en permanence pour défendre chacune de ses côtes. Et puis au-delà, un troisième, donc toujours pour des raisons de maintenance. Il y a une volonté de la part de l'Inde de contrer la montée en puissance de la Chine populaire et la volonté donc de cette Chine populaire finalement de transformer l'océan Indien presque en un lac chinois, si on poussait un petit peu le bouchon. Bon, il y a la Russie, vous l'avez dit. Après, il y a d'autres pays qui n'appartiennent pas. Donc la Russie, c'est pas encore tout à fait acquis, me semble-t-il. Là, ça serait plutôt en remplacement du Kuznetsov, déjà dans un premier temps. Et puis d'autre part, même s'il y a une volonté qui transparaît, bon, il y a des problèmes de budget militaire. Donc il n'y a encore rien de définitivement tranché, me semble-t-il. Maintenant, à l'extérieur même de ce qu'on... Il y a les Anglais qui sont revenus dans la course avec 2 porte-avions. Et puis après, donc à l'extérieur du Conseil de sécurité, outre l'Inde, on a un certain nombre de pays qui disposent de porte-aéronefs. Alors c'est en quelque sorte le porte-avions low cost. Mais si on prend les 2 porte-aéronefs, les 2 porte-hélicoptères japonais, par exemple, ils sont de la taille, du tonnage de véritables porte-avions. Donc c'est véritablement un critère de puissance. Et donc à mon sens, si la France veut rester au premier rang, elle doit maintenir cette capacité et même renouer avec le principe de permanence à la mer.
Nathalie Guibert, c'est votre avis aussi ?
Alors moi, je me garderais bien de trancher, parce que c'est un sujet politique uniquement. C'est-à-dire qu'il y a un débat d'experts militaires aussi sur la valeur et la plus-value d'un porte-avions. Si vous dites à un marin, on n'a plus besoin de porte-avions, il vous traite de garçon de bain. Mais si vous dites à un aviateur ou à un militaire de l'armée de terre,
qui a plus besoin de Charles Leclerc,
qu'on peut éventuellement se passer d'un porte-avions, ils vont dire oui, je vais vous démontrer comment. Donc il y a, c'est une décision politique. Voilà. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est ce qui s'est passé en fin 2016 avec le Kuznetsov,
le porte-avions,
le fameux porte-avions
qui est allé en Syrie.
Russe,
hein.
Voilà. Donc le porte-avions russe qui ressemble à une vieille guimbarde avec qui crache une fumée noire qu'on pourrait voir depuis l'espace sans difficulté. Donc fait rigoler tout le monde. Les Russes décident de le faire descendre de leur flotte du Nord vers la Syrie. Et donc, que se passe-t-il ? En réalité, c'est pas le porte-avions lui-même qui va apporter une plus-value dans le conflit syrien. D'ailleurs, il a même perdu deux avions parce qu'il y avait des problèmes mécaniques et techniques. Mais en revanche, sur le trajet, il a gêné toutes les marines occidentales qui ont dû déployer des moyens pour le surveiller, parce qu'il se promène avec des frégates, des sous-marins. Les Russes ont fait rentrer des sous-marins en Méditerranée à cette occasion. Donc il a fallu en plus fixer des moyens militaires de l'OTAN occidentaux pour surveiller tout ça. Ensuite, il a fallu créer des zones de déconfliction, c'est-à-dire qu'on se répartit un peu les eaux pour éviter que les porte-avions américains, français et autres se cognent en Méditerranée au large de la Syrie. Et puis, on a aussi testé, les Russes ont testé aussi d'autres capacités militaires à cette occasion. Donc, en réalité, avec la vieille guimbarde fumante, il y avait d'autres buts. Et sur le chemin du retour, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête en Libye et ils organisent un rendez-vous avec Haftar, le général Haftar, à bord du porte-avions. Donc c'est véritablement un outil politique avec des capacités qui se discutent sur un plan militaire, mais c'est au pouvoir de le décider et c'est aux experts militaires de dire, oui, effectivement, aujourd'hui, est-ce que c'est un outil qui peut perdurer, oui, avec les armes de très longue distance, la projection de puissance par d'autres moyens qu'on pourrait acquérir demain.
Général Georges Lain.
J'avais l'impression d'avoir à côté de moi le chef d'état-major de la marine, l'amiral Prazuk.
Vous faites beaucoup d'heures.
Oui. Acceptez-le. Il est évident, comme le disait en substance la grande experte, Madame Guibert, qui vient de nous faire une démonstration tout à fait époustouflante, si vous demandez à un marin si on a besoin d'un deuxième porte-avions, c'est un petit peu comme si vous demandiez à un évêque si Dieu existe. Il va répondre à oui. Alors, vous avez dit, pas vous, j'observe d'ailleurs, vous avez dit vous, Madame Lasserre en introduction, et vous, monsieur, que pour qu'un pays tienne son rang, il faut qu'il maîtrise les porte-avions et que par conséquent, il doit avoir une permanence de porte-avions.
J'ai dit que ça y contribuait.
Vous,
on
oui,
parle de la dissuasion nucléaire, quand même.
Permettez-moi de vous dire que c'est complètement faux. Ce qui permet à un pays de tenir son rang, y compris sur le plan militaire, c'est un ensemble beaucoup plus vaste dans lequel aucun élément à lui seul ne permet de dire que s'il manque, ce rang n'est pas tenu.
On n'a jamais dit le contraire, général. Là, vous...
c'est le discours d'à côté était beaucoup plus normatif là-dessus. Je connais bien cette question parce que, comme vous l'avez rappelé, j'ai été chef d'état-major particulier et chef d'état-major des armées. Et par conséquent, dans toutes les lois de programmation qu'il a fallu construire et mettre sur pied, cette question du deuxième porte-avions est continuellement venue. Et je me souviens, le président Chirac, dont j'étais le chef d'état-major particulier, était un grand fanat du deuxième porte-avions. Bon, général, c'est quand même incroyable. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à construire un deuxième porte-avions ? Et je lui disais, monsieur le président, si vous voulez construire un deuxième porte-avions, et on rejoint la question que vous avez posée à deux reprises dans le précédent débat, malheureusement, je n'ai pas pu reprendre la parole après. Eh bien, il faut augmenter le budget de la défense, non seulement du coût d'acquisition du porte-avions, qui est... Alors, je ne sais pas combien il est donné là. À l'époque, quand j'étais encore SEMA, un porte-avions, c'était pas loin de 4 milliards d'euros, en réalité.
C'est 4,5.
Oui, on a pas mal augmenté. Ce à quoi il faut ajouter des coûts qu'on gomme toujours et qui ensuite entraînent cette espèce d'érosion des armées. Il faut payer le porte-avions, il faut payer les crédits nécessités par son entretien. Le Charles de Gaulle, il est en service depuis 17 ans. Un tiers du temps est passé à quai pour des questions de maintenance, d'entretien, etc.
De modernisation.
Etc., etc. Bien. Il faut préparer des personnels. Or, les officiers de marine qui sont à bord, notamment les nucléaristes, sont des ingénieurs, de vrais ingénieurs nucléaires, ainsi de suite. Il faut donc, c'est un coût qui est beaucoup plus global. Et j'avais dit à Jacques Chirac, si vous voulez faire un deuxième porte-avions, moi je vous suggère de lancer les travaux d'un porte-avions franco-britannique.
Oui, voilà. On va y venir
oui,
après ça.
Oui, madame. Et ce qu'il ordonna à sa ministre de la Défense, Madame Michèle Alliot-Marie, qu'il recevait en ma présence tous les lundis à 11h, on a lancé le processus. Et comme ça avait été d'ailleurs le cas exactement similaire entre messieurs Giscard d'Estaing et Schmitt, lorsque ces deux éminentissimes chefs d'État, et notamment sur les questions de défense, avaient décidé de faire un char commun, les deux structures industrielles se sont ensuite arrangées pour faire capoter le projet. Et par conséquent, ça n'a pas... Alors on pourrait aller encore beaucoup plus loin, et ça, ça serait aujourd'hui, dans la lumière de ce que représente la question de la défense de l'Europe, on pourrait réfléchir de manière novatrice à ce que pourrait être un porte-avions sur pavillon européen.
Sauf que les Britanniques, ça y est, ont lancé leurs deux porte-avions, c'est trop tard.
Alors les marins de stricte obédience, vous direz que ce ne sont pas des porte-avions, mais des porte-aéronefs, parce que ce ne sont pas des porte-avions à catapulte.
Oui.
Mais c'est un peu un autre débat, ça, quand même.
Je vous dis ce que disent les marins, monsieur. Je ne suis pas marin, comme vous le voyez.
On avait remarqué, généralement.
Ce que je veux dire, c'est que le porte-avions, c'est un outil de souveraineté. Par définition, on ne peut pas partager. On peut coopérer technologiquement.
Général, j'ai une anecdote.
Vous n'avez pas écouté le président de la République, qui vous explique fréquemment qu'il faut construire une souveraineté nationale et une souveraineté européenne. Comprenez, c'est un vrai débat. Si l'on veut sortir aujourd'hui la défense européenne d'un blabla, d'une logorée qui n'évolue pas d'un iota, en réalité, eh bien, il faut avoir des audaces. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et votre réaction est tout à fait symptomatique et elle montre que le chemin est long. Mais je reviens à notre porte-avions. La question s'est également posée lorsque nous avons conclu la loi de programmation militaire de 2008, où les marins, qui sont d'excellents lobbyistes et qui ont beaucoup de...
Ce ne sont pas les seuls, général.
Je vous ai pas dit qu'ils étaient les seuls, je vous dis qu'ils sont d'excellents lobbyistes. Et donc, par conséquent, nous avons fait une réunion à l'Élysée pour trancher la question du porte-avions. Et j'ai expliqué que les finances étant ce qu'elles sont, nous n'avions pas les moyens de construire un deuxième porte-avions. Et que si nous voulions construire un deuxième porte-avions, il fallait nous amener de l'argent frais. Car la question du porte-avions, ce n'est pas une question qui se décide en soi. Le porte-avions, c'est un des éléments de l'ensemble du dispositif militaire français. Et la question qui se pose, c'est si je fais un porte-avions à coût constant, qu'est-ce que je ne fais pas ? Ça me fait penser à un docteur très connu des questions de défense. Alors ça, nous sommes au Livre blanc de 2008, qui nous expliquait que finalement, aujourd'hui, on n'avait plus... En gros, je schématise à peine. On n'avait plus besoin d'armées de terre, mais on n'avait besoin que d'escadres de satellites pour repérer, ce qui lui a valu cette phrase de ma part, « Savoir sans pouvoir ne sert à rien », et ainsi de suite. Donc la vraie question, c'est si je fais un deuxième porte-avions, je le fais à la place de quoi ? Est-ce que, dans la panoplie militaire, j'ai des moyens qui permettent de pallier l'absence d'un porte-avions ? Et la réponse, à l'évidence, est oui, puisque nous n'avons effectivement pas un porte-avions permanent. Donc la question, c'est pas d'abord celle de la marine. Vous dites que c'est une question politique. C'est d'abord celle du chef d'état-major des armées, qui, lui, responsable de la programmation, doit avoir une vision globale. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir deuxième porte-avions ? À l'évidence, oui. Mais dans les conditions financières actuelles et dans les conditions de nos opérations et de tout, la réponse est difficile.
Jean-Sylvestre Montgrenier, vous avez des solutions, vous ?
Oh, des solutions, ça serait bien prétentieux de ma part. Mais ce qui ressort quand même de ce que j'ai pu consulter comme document, des entretiens que j'ai pu avoir avec les uns, avec les autres, au-delà de tout corporatisme d'une armée ou d'une autre, c'est d'abord le coût, il doit être relativisé. Enfin, on revient tout le temps là-dessus. Le Charles de Gaulle, à l'époque où il a été construit, c'était le 12e programme militaire. Si on regarde les coûts tels qu'ils sont estimés, mais c'est vrai que les études n'ont pas encore été menées, donc à partir de ce qui précède, c'est 4,5 milliards, ça fait 450 millions par an. 450 millions par an, ça fait 1,5% du budget de défense, ça fait 0,02% du PNB, donc ça permet quand même de relativiser les choses. 450 millions d'euros par an, c'est à peu près 20 kilomètres de voies TGV. Donc là encore, ça donne une idée de ce que ça représente comme effort. C'est pas un effort insurmontable. Et puis, par ailleurs, normalement, on s'inscrit dans une perspective de remonter des budgets militaires. Et donc, de fait, on s'est privé bien de cette capacité, ou en tout cas du principe de permanence à la mer pendant un certain nombre d'années. Ça a permis aussi en partie d'accorder la priorité à d'autres programmes. Comme vous le dites à juste titre, ça fait partie d'un dispositif politico-militaire d'ensemble. Il ne s'agit pas de dire on veut un porte-avions et puis absolument rien d'autre, mais c'est quelque chose qui doit être envisagé. Alors un deuxième porte-avions, ce n'est pas deux fois plus de coûts. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'on conserve le même état-major de conduite tactique, on conserve la même flotte.
J'ai bien sur l'état-major de la marine à mes côtés. Là.
Oui. On conserve donc le même, les mêmes 25-30 rafales qui équipent ce Charles de Gaulle. Alors il y a un petit peu plus de coûts induits, c'est vrai, au niveau ressources humaines, au niveau équipage, au niveau des hommes, mais c'est pas on multiplie par deux purement et simplement le budget. Alors sur la coopération européenne, je suis à l'Institut Thomas More, qui est franchement européen, mais bon, la question c'est de savoir comment on organise cette Europe de la défense, et on va certainement pas vers une fédération européenne avec un pouvoir politique unitaire à la tête de cette fédération, et donc une éventuelle Europe de la défense, ça repose sur des nations cadres, des nations qui soient capables de diriger, d'entraîner les autres. Et là, le porte-avions est également un redoutable agrégateur de force. Ça permet de renforcer tout ce qui est coopération avec un certain nombre de nations alliées. Alors après, il peut y avoir coopération technologique, il peut y avoir des morceaux, entre guillemets, du porte-avions qui sont achetés ailleurs ou réalisés avec d'autres pays. Mais en revanche, par exemple, réaliser purement et simplement un porte-avions franco-allemand, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Parce que si on se retrouve à partager le même porte-avions, le jour où le Bundestag coince pour envoyer le porte-avions dans telle zone du monde, on ne peut pas, tout simplement. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mutualisées à la périphérie des systèmes militaires. Mais là, on est vraiment dans ce qui est central. Alors enfin, termine rapidement là-dessus, ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à il y a 15 ou 20 ans, on vit une véritable bascule sur les rapports de puissance. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a 15 ou 20 ans, en gros, pendant les 20-25 ans, la génération qui a suivi la fin de la guerre froide, la maîtrise de la mer, elle était acquise aux marines occidentales. Et donc, il s'agissait surtout de savoir comment projeter de la force, de la puissance à partir de la mer. C'était des opérations amphibies. Bon. Et donc, on partait du principe, pendant cette époque, que la question de la suprématie navale, la question du combat, par exemple, en haute mer, la question de la supériorité aérienne en haute mer, c'était quelque chose qui ne se posait plus véritablement parce qu'il n'y avait pas de challenger pour les marines occidentales. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a une redéfinition des rapports de puissance. On a des puissances émergentes ou des puissances réémergentes comme la Chine, comme la Russie, qui sont en train de revenir dans la course et puis qui entendent bien disputer aux marines occidentales la maîtrise de la mer. Alors, est-ce qu'on peut concevoir des opérations, de la projection de force, de puissance, y compris sur le plan terrestre, sans qu'il y ait une suprématie navale, sans qu'il y ait une supériorité aérienne? C'est la question que je vous poserai. Et ça passe par le porte-avions, par le groupe aéronaval. D'ailleurs, quand on dit le porte-avions, il y a tout le groupe aéronaval autour.
Je voudrais d'abord poser une question à Nathalie Guibert, parce que vous avez parlé du Kuznetsov, le porte-avions russe, qui, malgré sa fumée noire et son mauvais état, en fait, avait réussi à avoir à la fois un pouvoir de nuisance vis-à-vis des pays occidentaux, des forces occidentales, et un rôle diplomatique très important pour les Russes. C'est un peu la même chose. Le porte-avions français joue-t-il ce rôle? Parce que, par exemple, hier, on m'a raconté que pendant l'opération, quand les Français ont eu besoin de drones et de ravitaillement en vol, dont ils n'ont pas suffisamment en assez grande quantité, qu'ils ont demandé cette aide aux Américains, les Américains ont dit oui. Ils disent oui parce que vous avez le porte-avions et que c'est important pour nous.
Oui, non, mais c'est ça. Il faut regarder aujourd'hui, il faut écouter plutôt, les arguments avancé par les marins eux-mêmes pour préserver cet outil, au moins, et peut-être en avoir deux.
Mais concrètement, Charles de Gaulle, vous avez des exemples
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, les marins vous disent, c'est grâce à ça qu'on continue à être notamment crédible vis-à-vis des Américains. Donc, on atteint des niveaux d'interopérabilité, c'est-à-dire on travaille ensemble à la mer, entre nos frégates, nos porte-avions, etc., comme on l'a jamais fait. Les pilotes français vont s'entraîner sur les porte-avions américains, etc. Donc, il y a un argument de crédibilité vis-à-vis d'un allié dont on ne peut pas se passer. Absolument pas, pour des tas de segments des opérations aujourd'hui, qui sont le renseignement, le ravitaillement, etc., en vol des avions, etc., le transport stratégique, les drones. Et c'est un argument fort. Alors on pourrait se dire, mais peut-être qu'on pourrait obtenir cette crédibilité et cette coopération par d'autres moyens militaires, je ne sais pas. Et l'autre argument qui est avancé par le chef d'état-major de la marine aujourd'hui, c'est un outil pour faire venir les Européens autour de nous dans nos opérations. Alors pareil, on pourrait se dire à ce moment-là, si on poursuit le raisonnement, la logique voudrait effectivement qu'enfin on ait une marine de guerre européenne, c'est-à-dire quelque chose qui agrège des frégates, des sous-marins, que chacun puisse quand même garder avec un commandement national, bien évidemment, pour sa souveraineté, mais qui puisqu'on est dans un instrument de démonstration politique et de coopération, ça serait la logique. Donc, c'est pas tellement le nombre. Moi, je pense que c'est même la question de l'outil en lui-même et du fait que aujourd'hui, dans son système d'alliance et dans son modèle d'armée, la France est un peu coincée. C'est-à-dire que elle raisonne avec un modèle qui peut plus bouger de façon radicale. On va pas dire tout d'un coup, on supprime un pan entier de nos armées. On supprime les blindés lourds, on supprime le porte-avions, parce qu'on peut assumer ça. On n'arrive pas à sortir de l'idée qu'il faut à peu près toute la panoplie. Et puis, on a un système d'alliance qui est très tiré par les Américains, qui fait qu'effectivement, pour eux, ça fait partie des outils majeurs pour tester la crédibilité de leurs alliés et qu'on estime qu'aujourd'hui, c'est important. Voilà.
Général Georges Lain.
Bien, il y a beaucoup de choses à dire.
Allez-y,
parce que j'ai entendu.
Je vous voyais baisser la tête en boudant.
Non, pas en boudant. Au pire, en étant exaspéré. pour revenir sur ce que je viens de dire à l'instant, ma voisine, cette histoire de dire je joue la crédibilité, etc. Vous allez voir le commandant des forces spéciales, il vous dira que les Américains sont en plein émerveillement devant les forces spéciales françaises. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré...
Bah, c'est vrai, non
bien évidemment, oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ce n'est pas que le porte-avions. C'est l'effort spécial, c'est nos pilotes, etc.
Ah bah non, mais là, aujourd'hui, le sujet, c'est les porte-avions.
Non, parce que la manière dont ça a été présenté...
C'est pour ça que je vous dis qu'on peut éventuellement obtenir cet objectif par d'autres moyens.
Maintenant, je reviens sur le discours de mon voisin. Il est extraordinaire. Dans la deuxième partie de son propos, il a fait un requiem, une condamnation sans appel de toute idée d'Europe de la défense. C'est ça que vous avez dit.
Ah non, pas...
Si, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, il est inconcevable, alors que ma voisine, beaucoup plus...
Ne parlez pas en même temps, parce qu'à la radio, on ne s'entend plus.
Monsieur interrompu, je vous ai écouté patiemment.
Ben oui, mais vous m'attribuez quelque chose que je n'ai pas dit.
Si, vous avez condamné toute idée d'une défense européenne.
J'ai parlé des modalités. Je vous donnerai le dernier mot, Jean-Sylvestre Mongrenier, mais on ne parle pas en même temps.
En revanche, ce que disait Nathalie Guibert, c'est que, et d'ailleurs, ce que vous auriez pu dire vous aussi, c'est qu'on peut très bien avoir des groupes aéronavals mixtes avec le porte-avions français, des frégates, etc. D'ailleurs, ce que l'on fait déjà. Et ça, on est vraiment...
Agrégateur de force.
Mais ce que j'ai trouvé de beaucoup plus dangereux dans ce que vous avez dit, et dans ce que vous avez dit, on retrouve ce que disait précédemment la personne qui était assise là tout à l'heure. Vous avez tenu un discours en expliquant il faut minimiser les coûts. En réalité, on dit 4 milliards. C'est tout ce grignotage des coûts qui fait qu'au total, nous n'arrivons plus à nous en sortir. Voilà. Parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Comme le disait fort bien, et j'y pensais en vous écoutant expliquer, nous avons un modèle global, on ne peut pas couper des ponts, etc. Un ministre allemand des Affaires étrangères disait un jour... en matière de défense, la France voyage en première avec un ticket de seconde. Sous-entendu, elle affiche des tas de moyens, des tas de campagnes. C'est le fameux discours repris sous le quinquennat actuel, mais qui n'est pas nouveau sur cette armée complète, folle, etc. Certains disaient, oui, armée complète peut-être, mais armée échantillon. On le voit d'ailleurs, entre parenthèses, avec le porte-avions. Il faut qu'il y ait une certaine logique dans tout ça. Alors, et là, on rebondit sur votre dernière remarque tout à l'heure. Et c'est là où on voit bien que même avec 2%, nous n'arrivons pas à avoir un système militaire qui soit cohérent avec nos ambitions affichées et que par conséquent, à l'intérieur de ces crédits, même quand ils sont augmentés aussi sensiblement qu'ils le sont par la prochaine loi de programmation militaire, eh bien, ça n'ouvre pas la voie à des ambitions beaucoup plus grandes. Et notamment, c'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir la question de ce deuxième porte-avions.
Jean-Sylvestre Mongrenier, oui. Vous avez promis une réponse au général.
Bon, rapidement quand même sur l'Europe de la défense. Bon, d'abord, la défense de l'Europe, le fait est qu'elle se fait dans le cadre de l'OTAN et que l'Europe de la défense, elle est conçue quand même comme une roue de secours. Mais bon, c'est important parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Mais il n'en reste pas moins qu'une Europe de la défense quasiment intégrée, comme ça a été évoqué, ça suppose au préalable un pouvoir politique unifié. Et le fait est qu'on ne s'achemine pas dans cette direction. On cherche plutôt à tout faire pour que l'Union européenne n'explose pas. Donc, ce n'est pas le moment du volontarisme de dire on va y arriver malgré tout. Et donc, quand on regarde la coopération structurée permanente qui a été signée et qui est mise en œuvre depuis la fin 2017, on s'achemine plutôt vers une Europe des capacités. C'est 13 ans de ça. Donc, il s'agit d'essayer de mutualiser un certain nombre de budgets.
Ça, vous savez, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans.
Bien sûr, tout à fait. Mais ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans la vision française de l'Europe de la défense telle qu'elle était développée fin des années 90, début...
Vous prêchez tout à fait convaincu.
Mais donc voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas se dire, bon, on va d'abord faire un porte-avions franco-allemand ou franco-britannique, et puis après, on verra comment on fait pour l'utiliser. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Hein. Et donc, en dernière analyse, les nations, avec leur capacité politique, leur souveraineté, en tout cas les principales d'entre elles, ne vont pas disparaître. Et s'il peut y avoir plus d'Europe de la défense, ça sera à partir de quelques nations qui jouent un rôle clé. Bon, c'est ce que l'on appelle les nations cadres. Alors après, sur la question des coûts, des moyens, bien sûr, tout ça est extrêmement important. Mais si, dans ce cas-là, il faut avoir un grand débat politique, est-ce que la France entend rester une puissance de rang mondial avec tout ce que ça implique, hein, et quoi qu'on en dise, ça suppose une flotte extrêmement forte, hein, ça suppose des porte-avions. Il faut rappeler quand même que la France est possessionnée dans l'océan Indien, la France est possessionnée dans le Pacifique. De plus en plus, l'histoire, elle s'écrit dans ces zones-là. Il y a une sorte de basculement de l'Occident vers l'Orient. C'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure de région Indo-Pacifique, parce que ça permet de connecter à la fois les problématiques géopolitiques du Pacifique et celles de l'océan Indien. Et le fait est que la France, eh bien, elle s'engage de plus en plus dans cette direction, voire la coopération avec le Japon, avec l'Inde, avec l'Australie. Il y a bien sûr toute notre coopération avec les États-Unis qui a été rappelée. On voit se mettre en place, émerger ce qu'on appelle le Quad Indo-Pacifique dans la région. Donc à partir des quatre pays que j'ai cités précédemment, la France ne serait-ce que par sa géographie, c'est aussi un archipel finalement la France. Hein. Et finalement, elle détient une sorte d'empire maritime, si on veut forcer un petit peu le trait. Et donc, la France, elle a besoin d'une puissance navale, d'une puissance maritime, pour peser dans cette redéfinition des équilibres des puissances. Alors maintenant, si effectivement on considère que les jeux sont faits, il faut surtout bien gérer la baisse structurelle de nos moyens militaires et des moyens financiers qu'ils sous-tendent, inévitablement, à un moment ou un autre, si on cherche à explorer l'avenir, il y a un moment où il faudra se poser la question de la place de la France à l'intérieur du Conseil de sécurité, en tant que membre permanent avec un droit de veto. Le fait est que ça, c'est un statut de puissance mondiale. La question, c'est de savoir si on veut conserver les outils qui nous permettent d'être une puissance de premier rang, ou alors si effectivement la décision est prise de replier les Gaules, ça induit quand même beaucoup de remises en cause sur le plan politique et stratégique.
Ce sera le mot de la fin, mais je vais conclure. Conclure quand même en disant qu'en 1h20, on a quand même réussi à faire passer le budget de la défense à 3% et à construire 3 porte-avions. Donc c'est pas mal. Hein. C'est la fin de ce premier magazine de l'été. Un grand merci à nos invités, le général Jean-Louis Georgelin, Nathalie Guibert, Elie Tenenbaum et Jean-Sylvestre Mongrenier. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été préparée avec la collaboration d'Amélie Perrault et l'aide de Clara Garnier-Amouroux, de Christine Tomaso et de l'attachée de production Marianne Chassor. La réalisation était signée Clémence Gross et à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster en vous
vous rendant sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour le magazine du dimanche. Nous y traiterons des conséquences de la réélection du président turc Erdogan au Moyen-Orient. Et dans une seconde partie, nous nous poserons la question suivante. Faut-il comprendre le point de vue des pays d'Europe de l'Est sur les migrations ? À demain et bon samedi !